Fait que toi, tu fais la traduction depuis combien de temps?
Ça fera 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans que j'ai monté ma micro-entreprise. Et du coup, ouais, c'est ça. Ça fait 4 ans que je travaille en traduction et 3 ans en interprétation de conférences. J'ai fait mes études pour devenir interprète de conférences, mais pendant mon parcours, pour être, on va dire, au maximum de mes compétences pour réussir en interprétation de conférences, j'ai commencé par faire un master de traduction. Et la traduction, c'est un très bon moyen de pouvoir se lancer sur le marché linguistique. Et de travailler, sachant aussi que en interprétation, la demande est peut-être un petit peu plus fluctuante en fonction des saisons. Par exemple, le mois de janvier et le mois d'août, c'est généralement très calme parce que c'est soit les vacances, soit les entreprises viennent de boucler leur année. Donc le janvier, c'est le moment où on discute un peu des budgets pour l'année à venir. Donc c'est vrai que c'est des moments où moi je pars en vacances. Mais c'est vrai que c'est assez complémentaire, j'aime bien avoir les deux. Mais c'est vrai que si je devais en choisir qu'un, je choisirais l'interprétation de conférence. Je trouve que c'est plus excitant, on se retrouve dans des lieux complètement inédits et on a la chance de rencontrer plein de gens, d'interpréter des gens très inspirants aussi parfois, et ça c'est vraiment chouette. Ça demande beaucoup, beaucoup de pratique. Pour y être habitué, tout simplement. Parce qu'en fait, l'interprétation, ça implique d'écouter et de parler en même temps. Et en fait, ça, le cerveau, il sait pas faire. Donc en fait, c'est pas quelque chose où on se dit, c'est pas inné, ouais, c'est bon, j'écoute, je parle en même temps. Et en soi, tout le monde peut le faire, mais il faut juste beaucoup d'entraînement, il faut apprendre en fait à son cerveau à dédoubler son attention. Et c'est ça qui est le plus difficile pendant la formation. C'est vraiment en gros pratiquer pour que le cerveau crée de nouvelles connexions et qu'il sache dédoubler son attention sans être perturbé et en gardant sa concentration. Ouais, c'est stressant parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on a pas vraiment le temps d'avoir un dictionnaire à côté et tout. Et je pense que c'est probablement le point sur lequel j'ai dû le plus travailler pendant mes études. Ça a vraiment été la gestion du stress. C'est ce qui posait le plus problème parce que généralement, quand on est stressé, on dit n'importe quoi. Et on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est en cabine. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je pense qu'une grosse partie des étudiants en interprétation travaillent vraiment beaucoup. C'est vraiment savoir gérer son stress, garder une voix très calme, même quand à l'intérieur, on est en panique totale. Toujours, en fait, il faut apprendre à bluffer. Et moi, je ne savais pas faire avant.
Donc, ça s'acquiert.
Il y a toujours eu deux courants de pensée. Il y a vraiment le courant de pensée du genre t'es fait pour être interprète ou tu ne l'es pas. Et le courant de pensée, tout le monde peut le devenir. Pour ça, il faut juste beaucoup de pratique et beaucoup de travail. Et moi, je suis vraiment partie du deuxième courant de pensée. Je pense honnêtement que tout le monde est câblé pour pouvoir le faire. Faut juste être prêt en fait à investir énormément de temps et énormément d'énergie parce que c'est surtout ça en fait. En fait, tu vois, le problème, c'est qu'à la fac, on nous fait beaucoup traduire assez calqué, assez littéral. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est pas toujours, tu vois, en accord avec le marché. Moi, je sais qu'à chaque fois, je me cassais la tête à trouver des belles tournures, à faire quelque chose un peu chouette, tu vois. Et à chaque fois, le prof est en mode, ben non, là, il dit pas ça, il dit ça. Je fais oui, mais en fait, c'est exactement la même chose, mais avec des mots un peu plus élaborés, c'est un peu plus fleuri, tu vois. Bah ouais, mais lui, il a pas fleuri son truc. Je fais ouais, mais c'est pas parce que le texte de base, il est nul que le texte d'arrivée, il doit être nul aussi. Mais en fait, c'est parce qu'à la fac, ils veulent vraiment s'assurer qu'on a bien compris la source et que du coup, qu'on reste un peu collé. Alors qu'en fait, dans la vie professionnelle, au contraire, les clients, ils te demanderont toujours plus. Mais s'il faut s'éloigner, éloignez-vous. Mais rendez-nous un truc que quand on lit. On a l'impression vraiment que c'est un francophone qui a écrit le truc et qui s'est fait plaisir, tu vois.
Est-ce que tu peux me dire des exemples d'expériences passées où que tu as démontré ta capacité à te concentrer pendant de longues périodes?
J'ai eu l'occasion assez tôt de faire l'inauguration d'un sous-marin d'attaque nucléaire. Et ça, c'était trop bien parce que déjà, j'ai appris, franchement, j'ai appris mais plein de trucs. J'ai vu un sous-marin aussi, donc ça, c'était super cool. Et par contre, là, tu vois, j'étais très jeune interprète et j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied avant l'événement. J'étais très, très stressée parce que bon, il y avait des ministres, d'Australie, il y avait le président de la République française. Donc, forcément, j'étais un peu bon, faudrait pas que je me plante. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé en amont et c'était très très technique et ça c'est vraiment un événement qui m'a demandé une concentration extrême pour pas perdre le fil parce que c'était assez intense, ça allait assez vite. Et après les autres missions que j'ai adorées dans le même genre, à plusieurs reprises j'ai eu l'occasion de faire visiter des frégates d'intervention à des journalistes. Et franchement, se retrouver sur un bateau de guerre à faire une visite, c'est assez inédit. Et franchement, ça, c'était assez incroyable parce que du coup, on a eu vraiment l'occasion de visiter des chantiers navals et tout. Et évidemment, moi, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Et franchement, c'était assez fou.
Est-ce que dans ton rôle d'interprète, est-ce que tu es impartial ou tu ajoutes des choses?
Alors, on nous apprend à toujours faire preuve du plus d'impartialité, de neutralité possible. Ça fait vraiment partie du code déontologique des interprètes. Ça, c'est clair et net. Je ne dis rien de. Je ne dis pas ce qui n'est pas dit, en fait, tout simplement. Donc, je n'ajoute jamais rien. Puisqu'en fait, c'est pas mes mots, c'est pas mon discours, c'est je me contente uniquement de répéter ce que la personne, ce que l'orateur souhaite dire. Et ce n'est pas à moi de deviner s'il a voulu dire ça en plus ou ça en moins. Moi, je me contente uniquement de dire ce qui est dit et c'est très important puisque quand deux personnes communiquent, si on rajoute des trucs et que l'autre, et que la personne n'est pas au courant, ça peut vraiment poser des gros malentendus et c'est franchement pas le but. Le but quand même, c'est de justement de pouvoir passer au-dessus des barrières linguistiques pour aider les gens. C'est pas de mettre des bâtons dans les roues à une négociation, par exemple. Et pareil, hein, si le ton s'échauffe et qu'une personne commence à avoir des mots peut-être un peu plus durs envers une autre, il est de mon devoir en tant qu'interprète, on va dire, de faire passer le message aussi, de faire passer la colère, de faire passer la frustration, l'agacement, tout ça, quoi. Mais toujours en respectant les émotions qui sont exprimées par les orateurs. Bah après, pour les insultes, tu as quand même toujours ce côté où tu peux baisser un peu d'un demi-ton. On n'est pas obligé non plus d'insulter comme du poisson pourri la personne. Mais en tout cas, il faut faire passer les émotions pour que la personne comprenne vraiment ce qui se passe. Et puis, de toute manière, ça n'aurait vraiment pas de sens. D'interpréter quelqu'un qui est peut-être debout, qui tape du poing sur la table, et d'interpréter avec un ton super calme et super poli, puisque la personne qui écoute, elle va avoir un décalage entre le son et l'image. Tu vois, à un moment donné, ça colle pas. Donc, faut faire en sorte que ça colle vraiment à la réalité, quoi.
Puis, est-ce que des fois, tu as besoin de traduire des blagues?
Ouais. Alors franchement, il y a des blagues qui passent super bien, qui sont très faciles. Par contre, les blagues où il y a des références, c'est parfois un peu casse-gueule. Donc, j'ai pas, franchement, ça m'est encore jamais arrivé de me retrouver vraiment sur une blague impossible à interpréter. Je pense que ça a forcément déjà dû arriver à des gens, puisqu'il y a des blagues qui sont, je pense, impossibles à interpréter quand il y a trop de références ou quand c'est vraiment un jeu de mots qui marche super bien en français mais qui marche pas du tout en anglais. Mais de mon côté, j'ai toujours réussi à m'en sortir sans trop de problèmes. Et au pire du pire, bon, elle passe un peu à la trappe. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas tout le public qui rigole. Sinon, il faut trouver une petite parade pour faire rigoler les personnes qui nous écoutent, quoi. Ce qui me met le plus au défi, c'est quand c'est des conférences qui sont vraiment très, très, très techniques. Parce que des conférences techniques, ça demande beaucoup de préparation. Ça demande d'apprendre des centaines de mots de vocabulaire. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus dur pour moi, en tout cas, d'apprendre des. En fait, de se documenter sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout, qu'on connaît assez peu, et de rentrer dans les détails. Et du coup, la préparation, elle est super importante. Et parfois, sur ce genre de conférences, on est face à vraiment des experts de renommée internationale qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui parlent très très vite, qui parlent dans un jargon technique qui est assez fou. Et là, le défi, c'est de réussir à suivre le débit, donc la vitesse de parole, quoi. Et de dire la même chose avec les mêmes mots techniques, parce qu'il s'adresse à des experts, donc il faut parler comme une expert. Moi, j'avoue que je fais beaucoup plus au feeling. Je connais ma capacité de traduction, je sais combien de mots je peux traduire en un certain nombre de temps. Donc du coup, autant au début, quand j'étais toute jeune dans le secteur de la traduction, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à devoir traduire une bonne partie de la nuit, ou de faire sauter mes week-ends avec mes amis parce que je me retrouvais en fait sur un projet où si je travaillais pas les 2 jours du week-end, j'allais jamais pouvoir le rendre dans les temps. Parce que j'avais tendance un peu à surestimer la capacité, enfin le volume que je pouvais prendre. Et ça, je pense que honnêtement, ça s'apprend vraiment avec les années, avec l'expérience. On apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux connaître nos capacités, à mieux connaître nos clients aussi. Donc ça change un peu la donne. Ça a dû m'arriver peut-être une ou deux fois en 4 ans de rendre un projet, aller peut-être avec une heure et demie de retard. Mais c'est très rare parce que la ponctualité dans ce marché, elle est très importante. En fait, ça fait partie de ce que tu offres à ton client en tant que prestataire. Donc, si tu n'es pas capable de livrer à l'heure, c'est compliqué. Surtout que généralement, si tu livres en retard, c'est qu'en plus, tu as charbonné pendant un moment, donc que potentiellement, tu as dû travailler très vite et que du coup, tu donnes pas forcément, tu rends pas forcément quelque chose de la plus haute qualité, quoi, que tu pourrais offrir, tu vois. Donc, ouais, faut faire attention. Faire attention à ça. Il faut toujours prendre large. Moi, c'est un peu ma façon de fonctionner. C'est que même si je sais, par exemple, je reçois un mail d'un chef de projet qui me propose une super traduction, et je sais que techniquement, ça rentre dans mon emploi du temps. Tu vois, je sais que j'aurai le temps. Mais s'il arrive un petit truc à côté, ou s'il y a un jour où je ne me sens pas très bien, ou s'il y a un jour où j'ai vraiment pas envie de travailler et que du coup j'ai du mal à me concentrer, tu vois, pour éviter de livrer en retard, je demande toujours à avoir un petit peu plus, tout le temps. Quitte à chaque fois livrer en avance. Quand tu livres de la bonne qualité et que tu livres toujours dans les temps, c'est comme ça que tu commences à nouer des super relations avec tes chefs de projet et qu'ils font souvent appel à toi parce qu'ils savent que t'es pas juste une personne avec laquelle ils discutent par mail, tu vois. À un moment donné, ils savent que t'es quelqu'un, voilà, que ça fait 2 ans qu'ils travaillent avec toi, que t'es fiable, qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'un coup de main sur quelque chose, t'arrives à trouver une solution pour eux, que tu leur rends du travail de qualité et tout. Et en fait, c'est comme ça après que t'arrives vraiment à gagner des clients, à développer ton activité aussi. Moi, je suis en freelance, donc je travaille avec des agences de traduction qui en gros, je suis un prestataire de service, hein, ils me sous-traitent les traductions, et je travaille avec des clients directs. Donc en fait, c'est toujours à la mission, quoi. J'organise ma journée comme je veux, et j'accepte les projets que je veux. S'il y a un projet qui ne m'intéresse pas, ou je me dis « oh là là, non, ça va être barbant, je ne vais pas réussir à me concentrer dessus », je leur dis tout simplement que je ne suis pas disponible. Voilà. Je choisis un peu... Bon, au début, je ne choisissais pas trop. Maintenant, avec les années, on a plus souvent le choix de choisir puisqu'on a plus de travail. Depuis le Covid, les choses ont un peu changé parce qu'on est quand même beaucoup passé en visio pour travailler. Donc, c'est des conditions de travail un petit peu différentes, qui sont un peu plus fatigantes. Faut faire attention un peu plus à ses oreilles, surtout, puisqu'on n'a pas de technicien qui gère le son pour nous. Donc, faut faire attention à ne pas se retrouver avec des gens sur Zoom qui hurlent dans leur ordinateur quand toi, tu as les deux oreilles, tu sais, bien collées. Et puis, je lance un message à tous les gens qui font des conférences Zoom. Franchement, si vous savez que vous allez parler super longtemps et tout, un petit micro et un petit casque, ce serait le top. qu'on vous entende bien. Parce que sur place, on a toujours une équipe de techniciens qui s'occupent de tout et qui font du super travail, donc c'est plus simple, quoi. Quand les personnes doivent être interprétées, si le son est vraiment mauvais, pour nous, c'est hyper compliqué parce que du coup, on a du mal à les entendre. Et si on ne les entend pas, c'est compliqué de les interpréter. Il y avait plusieurs personnes qui se connectaient à la réunion, du genre dans leur voiture. Il y en avait un qui était en train d'embarquer genre dans un avion, des trucs comme ça. Et en fait, ces gens, ils se rendent pas compte, mais quand tu es en train d'embarquer dans un avion, à un moment donné, il y a quand même vraiment beaucoup de bruit extérieur. Et du coup, le gars, il parlait, nous, on n'entend quasiment rien, donc il faut essayer de recréer un discours. Et en fait, ça demande une énergie, mais une énergie qu'on n'a pas, en fait. Tu vois, c'est que du coup, ton cerveau, il vraiment, tu as la sensation que ton cerveau, il grille au bout de 10 minutes. Tu es là, mais je ne comprends plus rien, je n'arrive plus à réfléchir. C'est quand même un secteur qui est très peu connu. Il y a peu de gens finalement qui savent vraiment comment ça fonctionne. Et du coup, je pense que les gens ne se rendent vraiment pas compte. Il y a plein de fois, par exemple, où moi je disais à mon client, écoutez, je suis désolée, mais là la qualité son, le son est tellement bas, par exemple, que en fait, dès que je commence à parler, même si je chuchote, je n'entends plus ce que dit la personne. Donc, il faut trouver une solution pour augmenter le son. Et tu vois, le client, il écoute, il fait « si, on entend très bien ». Je fais « oui, mais on entend très bien quand on n'a pas besoin de parler par-dessus ». Je fais « si vous commencez à parler en même temps, vous verrez que vous entendez plus ce qui se passe ». Tu vois. Et en fait, c'est surtout, je pense que les gens, ils ont pas ça en tête. Et après, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est normal. C'est un secteur qui n'est pas connu de tous, évidemment. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'il faut toujours rappeler, qu'on rappelle beaucoup à nos clients, tu sais, en amont d'un événement, on fait un peu de pédagogie pour leur expliquer comment ça va se passer, peut-être un peu les bonnes pratiques à suivre pour, en fait, qu'ils comprennent que les exigences qu'on a, c'est pas pour être un peu attendu comme les messies, faut faire ci, faut faire ça pour les interprètes, mais c'est plus qu'en nous offrant des bonnes conditions de travail, ils s'assurent que le message qu'ils veulent faire passer, il passera vraiment comme ils le veulent, tu vois, dans toutes les nuances qu'ils ont choisies, quoi. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Québec, les premières personnes qui me parlaient québécois, j'ai vraiment eu du mal à me réadapter, déjà à entendre du français, mais en plus, un français avec un accent qui ne m'était pas du tout familier, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, je trouvais ça dur et je me dis, mais moi, si on me fout au Parlement là, et qu'il parle avec un accent comme ça, si je ne comprends pas, je fais quoi? Est-ce qu'un public québécois accepterait d'avoir une interprète francophone de France? Parce que du coup, on n'a peut-être pas toutes les mêmes têtes ou les mêmes mots et tout.
Tu dis cabine depuis tantôt, mais c'est quoi la définition de cabine?
Alors, la cabine, c'est l'endroit dans lequel les interprètes travaillent. Donc, elles sont soit déjà existantes dans le lieu de conférence, soit il y a des techniciens qui construisent des cabines en fait avant qu'on arrive. Et en fait, ce sont des petites salles, je dis petites, mais genre même très petites, qui doivent peut-être faire, je sais pas, genre 4 mètres carrés. C'est vraiment petit. C'est une cabine du coup insonorisée. Et en fait, si tu veux, tu as une petite porte et quand tu rentres dans ta cabine, tu as une table avec deux chaises. Tu as les consoles d'interprétation. Donc là où tu as ton micro, ça te permet de sélectionner la langue dans laquelle tu vas interpréter pour te brancher sur le bon canal pour ceux qui t'écoutent. Tu as une petite lampe quand même parce que généralement dans les trucs de conférence, tu es vite dans le noir, donc pour que tu puisses quand même voir ce que tu écris sur ton papier. Et en fait, la partie devant toi, elle est complètement vitrée pour que tu puisses voir tout ce qui se passe. Et les gens te voient, mais par contre, ils ne t'entendent pas à l'extérieur. Et toi, quand tu es dans ta cabine, tu n'entends pas ce qui se passe à l'extérieur, à part dans ton casque. Tu vois? Et donc, en fait, le but de cette cabine, c'est que toi, tu puisses interpréter sans être gêné par les sons alentours et que surtout, tu n'embêtes pas les gens qui écoutent la conférence sans interprétation et qui, du coup, n'ont pas une deuxième langue dans les oreilles derrière en mode qu'est-ce qu'elle est en train de faire, tu vois? Et voilà. Et nous, on appelle ça une cabine. Et en anglais, tu vois, c'est le fameux booth.
Mais moi, dans ma tête, un interprète, c'était comme à côté de la personne qui parlait.
Bah, en fait, ça existe, hein, mais ce n'est pas le même type d'interprétation. La cabine, c'est quand tu fais de l'interprétation en simultané, donc quand tu parles vraiment en même temps que la personne qui parle. Et en fait, ça arrive parfois que les interprètes soient à côté de la personne qui écoute. Donc là, c'est soit genre tu fais du chuchotage, donc c'est pareil, c'est de la simultanée, mais dans l'oreille de la personne. Et peut-être que toi, tu penses plus à de l'interprétation de liaison, où du coup, c'est en petit groupe. Donc, par exemple, quand tu as deux personnes qui négocient quelque chose avec deux autres personnes, et que l'interprète est un peu au milieu et fait vraiment la liaison entre les deux, ça porte bien son nom. Auquel cas, là, on est vraiment à la table des négociations. On n'est plus du tout isolé et on parle à voix haute devant tout le monde, mais après que la personne ait parlé, tu vois. Donc, on écoute, on parle, la personne nous écoute. C'est un petit peu plus long, mais. Ouais, c'est typiquement le genre d'interprétation que tu retrouves pour, je sais pas moi, des négociations commerciales, peut-être des rendez-vous diplomatiques aussi, parce que les gens aiment bien, tu vois, être en contact direct et tout. Donc dans la cabine, tu as ce qu'on appelle une console. C'est une petite machine, comme un petit tableau de bord, tu vois, où tu as les volumes, tu as les, pardon, les boutons pour le volume, tu as ton micro, tu as un bouton pour allumer, éteindre ton micro, pour mettre mute, tu as un bouton pour sélectionner anglais ou un truc pour sélectionner français. Pareil, je t'enverrai une petite photo, comme ça tu visualiseras un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Et en fait, ta console, c'est avec ça que tu gères tout ce que tu fais. Et donc, en fait, les gens, eux, on leur distribue un casque avec un tout petit carré électronique, là, qui ressemble un peu comme un petit téléphone, quoi. Et en fait, eux, ils sélectionnent leur canal, on appelle ça un canal. Et donc, en fait, chaque langue est liée à un canal. Alors, pour une raison que j'ignore, c'est complètement arbitraire, mais par exemple, la cabine française, elle est toujours sur le canal 3. Et du coup, quand on distribue ce petit boîtier aux gens, en fait, ils peuvent choisir le canal. Donc, s'ils se mettent sur le canal 3, ils entendront les interprètes parler en français. Et s'ils se mettent sur le canal 1, ils entendront en anglais. Et si, je sais pas, moi, tu vois, genre à la Commission européenne, tu as genre plus d'une vingtaine de langues, et ben tu as plus d'une vingtaine de canaux, tu vois. Et pourquoi toutes les langues? Ben, tout simplement parce qu'il avait été décidé lors de la création de l'Union européenne, il me semble, enfin non, pas de l'Union européenne, de la Commission européenne d'ailleurs, que en fait tous les pays doivent être mis sur un pied d'égalité et que pour être sur un pied d'égalité, il faut que tous les pays aient le droit de s'exprimer dans leur langue et de suivre les conférences dans leur langue pour justement éviter tout quiproquo ou avantager tout simplement, par exemple, si on faisait tout en anglais, puisque c'est un peu la lingua franca du moment. Si on faisait tout en anglais, bon, ce n'est plus le cas maintenant depuis le Brexit, mais ça aurait mis le Royaume-Uni, par exemple, enfin, ça aurait donné un avantage considérable au Royaume-Uni parce que eux, ils auraient la capacité vraiment de s'exprimer dans toutes les nuances, ils ont tous les mots et tout, alors que tu as certains représentants d'autres pays qui parlent peut-être moins bien anglais, qui, vu qu'ils sont moins à l'aise, ils ont plus de mal à s'exprimer et donc ont plus de mal à faire valoir leurs idées et à défendre leurs idées. Et du coup, le but d'avoir toutes ces langues-là et d'avoir des interprètes, c'est vraiment d'assurer cette équité, en fait, entre chaque pays, que chaque pays a une voix qui est importante et que c'est pas parce que tu viens d'un pays plus petit, avec une langue peut-être plus rare, qui compte moins de locuteurs, que tu n'as pas le droit de défendre tes idées comme il se doit. En gros, c'est ça. On est quand même très nombreux sur le marché du travail, enfin sur le marché de l'interprétation, à avoir l'italien, l'espagnol ou l'allemand en langue secondaire. Et en fait, du coup, les gens, au lieu de devoir tout donner pour essayer de s'exprimer comme il faut en anglais, ils pourraient juste s'exprimer dans leur langue maternelle et ça passerait tout aussi bien, tu vois.
Puis tu dis que tu es tout le temps avec deux personnes, un binôme.
Et surtout, il ne faut pas oublier qu'en interprétation, on travaille toujours en binôme. Et que le binôme, ben, il est là pour nous aider. Et en fait, à partir du moment où on est en équipe, de manière générale, ça va bien quand même. Quand on fait entre deux langues, on appelle ça biactif. Donc du coup, je suis interprète biactive français-anglais. Et par contre, pour l'italien, je fais uniquement vers le français, surtout en simultané. Si c'est de l'interprétation de liaison, il va m'arriver de le faire vers l'italien. Mais pour la simultanée, je ne me sens pas encore assez à l'aise en italien pour partir sur des sujets particulièrement techniques. J'aurais peur d'offrir une prestation en dessous de la qualité que je trouve acceptable. Donc, je préfère m'en tenir à faire de l'italien vers le français. En interprétation, si tu veux, on est toujours deux parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui montrent que, en fait, au bout de 30 minutes d'interprétation, ton attention, elle commence vraiment à diminuer et tu commences un peu à dire un peu n'importe quoi, on peut dire ça comme ça. Enfin, tu commences à fatiguer et la qualité de ton travail en pâtit. Et donc, en fait, toutes les 30 minutes, on passe le relais à notre binôme. Donc on fait ce qu'on appelle en interprétation une passation de micro. Donc on passe le micro, notre collègue enchaîne pour 30 minutes. Et pendant les 30 minutes où c'est notre collègue qui travaille, bah nous on est à côté, on écoute aussi ce qui se passe. Si c'est par exemple quelque chose de très technique, on s'assure de rester là pour noter par exemple les chiffres, les noms. Si c'est une réunion financière, on est là avec le tableau, avec tous les chiffres et on pointe avec un stylo pour que la collègue elle puisse juste donner un coup d'œil. Donc on s'entraide comme ça. Si c'est un peu moins technique, on prend cette demi-heure pour faire reposer son cerveau, pour aller boire un café, pour faire une pause technique, potentiellement aller prendre l'air 5 minutes histoire de, tu vois, de reprendre un peu ses esprits si on est fatigué. Voilà. Mais on change toutes les demi-heures et ça, pareil, ça fait partie. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des gens hein, qui essaieront de dire non, mais bon, vu que c'est qu'une heure et demie, machin et tout. Ouais, mais en fait, 1 heure et demie, il faut 2 personnes. C'est comme ça. Ce que j'aime bien en interprétation par rapport à la traduction, c'est qu'en interprétation, de toute façon, ce qui est dit est dit. Donc, tu sais, tu pourras jamais revenir dessus. Alors qu'en traduction, quand tu vas relire ton truc, tu vas être en mode. Ah, mais là, peut-être que je peux trouver un mot plus comme ci, plus comme ça. Et en fait, tu passes des heures à tergiverser sur quel est le mot le plus joli, qu'est-ce qui est le mieux. Et franchement, ça, des fois, ça me fait perdre tellement de temps et ça me met un peu, tu sais, ça met un peu les nerfs, quoi. Alors qu'au moins, en interprétation, bon, bah, c'est dit, tu peux plus revenir dessus. Donc, tu te poses plus de questions, tu vois.